VOA Afrique, les infos. À Washington.
Avec vous, Henri Francisque, midi à Bamako, 13h à Kinshasa. Bienvenue à notre journal. En République démocratique du Congo, plusieurs centaines de protestataires ont manifesté ce lundi à Kinshasa contre la corruption dans le pays. Un rassemblement à l'appel du CLC, le Comité laïque de coordination, un collectif catholique soutenu par l'opposition au nouveau président Félix Tshisekedi. Le CLC avait joué un rôle de premier plan début 2018 dans des marches étouffées dans le sang pour obtenir le départ de l'ex-président Joseph Kabila. La manifestation d'aujourd'hui est la première du CLC sous le mandat de l'ancien opposant Félix Tshisekedi, investi président en janvier. Elle n'a pas drainé autant de monde que fin 2017, début 2018, lorsque ce collectif appelait à des manifestations contre Joseph Kabila. Les protestations de ce lundi interviennent après l'affaire dite des 15 millions de dollars, le premier grand dossier de corruption présumé depuis l'investiture le 24 janvier du président Tshisekedi. Afrique centrale toujours, au Congo-Brazzaville, les acteurs politiques, surtout ceux de l'opposition, ne sont pas tous d'accord sur les préparatifs du dialogue national. Si certains saluent une opportunité de se parler, d'autres en revanche jugent inopportun ce dialogue et appelle simplement à la libération des prisonniers politiques et à la mise en œuvre des conclusions des dialogues qui ont déjà eu lieu dans le pays, notamment sur le point concernant la gouvernance électorale. De Brazzaville, notre correspondant Arsène Séverin.
Au début de ces consultations, le Conseil national de dialogue que dirige Martin Berry, un ancien ministre, a trouvé une oreille attentive à la majorité présidentielle et à l'opposition parlementaire, dont Pascal Tsatsimabiala est le chef de file.
D'abord, il y a nécessité de se parler. Les Congolais ont besoin de se parler.
Mais depuis là, les voix s'élèvent du côté extrême de l'opposition pour s'interroger sur l'opportunité d'un tel dialogue. Éric Patrick Mampouya, à la sortie d'une réunion de la Fédération de l'opposition, préparant la rencontre prochaine avec les membres du Conseil national du dialogue.
Ça ne va pas du tout. Depuis plus de 10 ans, on se bat toujours à la veille à cause des élections. On n'arrive pas à régler le problème, on a eu des dialogues. C'est du foutage de gueule. Ce dialogue-là ne produira rien. Mais on va recevoir la délégation de M. Mbéry Martin pour leur dire que ça ne produira rien. Le dialogue est permanent au Congo. C'est du n'importe quoi.
Ancien prisonnier et président de Unis pour le Congo, Paulin Makaya tient à ce que l'ordre du jour de ce dialogue soit bouclé ensemble avec les opposants.
C'est le pouvoir qui a changé la conscience et qui a mis en place ce Conseil national du dialogue. Ce que nous nous proposons, c'est clair et simple. Il faut qu'on mette en place une commission préparatoire mixte paritaire. Opposition, pouvoir, société civile et la diaspora. Et à la fin, nous proposer un ordre du jour, parce qu'il s'agit du pays qui est malade. Il ne faut pas tergiverser.
Plus serein, l'universitaire Vivien Manangu analyse la démarche du Conseil national du dialogue en ces termes.
Moi, je m'interroge en revanche sur l'efficacité des consultations plateforme par plateforme. Disons par exemple que les plateformes ne sont pas juridiquement, n'ont pas véritablement d'existence juridique. Il aurait sans doute été mieux que le Conseil national du dialogue procède par des consultations partis politiques par parti. Si on veut évoquer la question économique, c'est du ressort du gouvernement. C'est au gouvernement de trouver les solutions pour répondre à la crise économique. Et même les questions électorales, je ne vois pas bien qu'est-ce qu'on va dire dans un dialogue, parce que nous avons empilé des dialogues. Les résolutions existent, il suffit de les mettre en application.
Lors de la consultation la semaine dernière auprès des partis du centre, une bagarre s'est déclarée, occasionnant un blessé grave. Choqué, Martin Berry condamne cette violence et appelle les différents acteurs politiques à dialoguer, quel que soit le problème.
Ceci reste incompréhensible, intolérable et condamnable. J'en appelle à tous les acteurs politiques de notre pays de cesser définitivement de faire le recours à la violence qui n'a aucun sens. Il s'agit maintenant de pratiquer de manière constante le dialogue, dont les résultats sont souvent pertinents. Ce que nous recherchons.
Malgré cet incident, le Conseil national du dialogue n'a pas pris de plan dans l'aile. Au contraire, il compte se déployer ce mercredi vers d'autres formations politiques de l'opposition. Arsène Séverin, Brazzaville, VOA Afrique.
VOA Afrique en direct de Washington.
La lutte contre les djihadistes dans le Sahel maintenant. Au Mali, l'armée nationale riposte après avoir encaissé plusieurs coups durs de la part de l'ennemi. Les FAMA, les forces armées maliennes, annoncent avoir neutralisé des dizaines d'adversaires et réussi à libérer une trentaine de soldats maliens lors de la contre-offensive lancée après la double attaque du 30 septembre contre des bases militaires dans le centre du pays. Notre correspondant Kassim Traoré fait le point.
C'est pour faire le point de l'offensive en cours menée par les forces armées maliennes FAMA et leurs partenaires que le commandant du théâtre centre de l'opération Dambé s'est adressé à la presse, colonel-major Oumar Diarra.
À peu près 80 ennemis neutralisés, une centaine de blessés, des matériels détruits et un important pôle logistique de 35 fûts de carburant détruits. Côté amis, 40 morts, 36 rescapés, dont 17 évacués. Le bilan des portés disparus est revu à la baisse avec un chiffre de 27 militaires tout au plus.
Général Abdraman Babi, chef d'état-major général adjoint des armées du Mali.
Nos frappes nous auraient permis de neutraliser des acteurs de premier plan, notamment au niveau de Ansarul Islam, avec des noms qui ont été évoqués comme le cas de Amadou Boukari Diko di Jafar Diko, donc qui a priori aurait été neutralisé, ainsi que Ousmane Boli di Oumi.
Selon les responsables des FAMA, les opérations offensives antiterroristes en cours vont se poursuivre avec le soutien de leurs partenaires et de nouvelles dispositions sécuritaires seront prises. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Au Nigeria, découverte d'exactions dans une autre école coranique de Kaduna, dans le nord du pays. Près de 150 élèves, dont 22 filles, y auraient subi des sévices. Au total, plus de 1000 talibés. Des étudiants inscrits dans des écoles coraniques ont été libérés en un mois par les forces de sécurité. Les détails avec Gilbert Tamba à Abuja, la capitale fédérale nigériane.
C'est la quatrième opération de ce type en un mois effectuée par la police nigériane. Les conditions de captivité des personnes libérées n'étaient pas encore claires, mais contrairement aux autres écoles, au moins 22 des captifs nouvellement libérés étaient des femmes. Selon la police de l'État de Kaduna, les captifs avaient été enchaînés, battus et abusés sexuellement. Des abus similaires ont été signalés dans d'autres centres de torture récemment découverts à Katsina et Kaduna au cours du mois écoulé. Les centres de torture convertis en écoles islamiques sont très répandus dans le nord du Nigeria, majoritairement musulmans. Les propriétaires de ces centres prétendent enseigner le Coran aux étudiants, mais les soumettent plutôt à des abus physiques au nom d'une réhabilitation morale. Une de ces écoles a été découverte la semaine dernière dans la ville natale du président Muhammadu Buhari. Les personnes libérées comprennent des enfants âgés à peine de 7 ans. Dans le pays, les gens se demandent combien y a-t-il encore de ce type de centres de torture qui restent encore cachés. Gilbert Tamba, Abuja, VOA Afrique.
Toujours concernant les mauvais traitements infligés à des gens sans défense, en France, la justice française doit rendre ce lundi sa décision concernant un ex-ministre du Burundi et son épouse, accusés d'avoir exploité pendant 10 ans un Burundais chez eux en région parisienne. Le point avec Claire Morin-Gibault.
Ancien ministre de la Justice puis de l'Économie au Burundi, Gabriel Mpozagara a comparu le 9 septembre aux côtés de son épouse pour soumission à un travail forcé et à des conditions de travail et d'hébergement contraires à la dignité. Le couple a clamé son innocence. À la barre, Méthode Sindiyagaya, un ancien cultivateur burundais de 39 ans, a affirmé travailler 19 heures par jour, faisant toutes les tâches ménagères de la maison, le jardinage et s'occupant d'un des fils du couple qui souffre de handicap. Il a raconté dormir au sous-sol dans la buanderie et se laver avec un seau d'eau. Son passeport avait été confisqué par ses employeurs, a-t-il dit. La procureure a requis 3 ans de prison, dont un ferme. L'avocat de monsieur et madame Mpozagara a insisté sur le manque de preuves dans ce dossier. En 2007, le couple avait déjà comparu dans ce même tribunal. Ils avaient été condamnés puis relaxés en appel dans un dossier similaire qui concernait 2 jeunes nièces venues du Burundi. Le tribunal correctionnel de Nanterre doit rendre sa décision aujourd'hui lundi.
Et pour terminer, le leader russe Vladimir Poutine va présider mercredi et jeudi le premier sommet Russie-Afrique, symbole des ambitions grandissantes de Moscou dans une région où Chinois et Occidentaux comptent plusieurs longueurs d'avance. Une trentaine de leaders sont attendus à ce rendez-vous qui vise à montrer que la Russie a beaucoup à offrir aux États africains, selon le Kremlin. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.